Simple et moi, avec Gaspard Hofort.
Bienvenue dans Simple et moi, l'émission qui n'a pas besoin de dépasser les 88 miles à l'heure pour traverser les époques ici, plutôt que d'aller converser avec Chuck Berry et tutoyer les débuts du rock en 1955. Abordons un sujet qui m'est cher, voire même deux sujets, une thématique réunissant les deux, à savoir la musique électronique au cinéma, pour ce 100e numéro classique de l'émission. Et oui, déjà, je voulais aussi et surtout trouver un prétexte pour réunir ceux que je considère un peu comme les parrains du programme, puisque ayant déjà apporté leur savoir et expérience sur différents sujets, toujours avec une générosité et une bienveillance les caractérisant. À ma gauche, Thierry Jousse, cinéaste, journaliste, ancien rédac-chef des Cahiers du cinéma, régulier du programme Blow Up d'Arte et à la tête du passionnant magazine hebdo Ciné Tempo sur France Musique. Tu avais participé à une spéciale David Lynch pour les épisodes de 31 et 32 de l'émission. Bonjour Thierry, merci d'être là.
Bonjour Gaspard, oui c'est exact, j'avais participé.
Et à ma droite, Jean-Yves Leloup, journaliste aussi, régulier du magazine Tsugi entre autres, commissaire d'exposition comme celle dantesque, je m'en souviens encore, sur l'électro qui avait eu lieu à deux pas d'ici en 2019. Ta connaissance du milieu des musiques électroniques comme journaliste et essayiste s'ajoute à ton parcours de musicien touche-à-tout. Au sein du duo, par exemple, Radio Mental. Tu as participé à plusieurs épisodes de l'émission, déjà comme celle sur le Détroit électronique, Kraftwerk, et enfin sur la musique ambiante. Bonjour Jean-Yves, merci de nous accueillir ici à la Cité de la Musique de Paris, ton lieu de travail en ce moment.
Oui, absolument, bonjour à toutes et à tous. On travaille sur une future exposition en 2025 à la Philharmonie de Paris consacrée à la musique disco.
Et essayons déjà de définir ce que peuvent être les musiques électroniques au cinéma. Est-ce que déjà on peut dire que c'est la somme des deux parties, c'est-à-dire les musiques électroniques rencontrant le cinéma, ou doit-on l'aborder comme une entité particulière ? Je ne sais pas si c'est très clair ma question. Qu'est-ce que la musique électronique dans un contexte cinématographique, et de quand peut-on la dater ?
Peut-être que les premiers instruments électroniques et les premières sonorités électroniques apparaissent principalement dans le cinéma de science-fiction hollywoodien, populaire. Là, je saute un petit peu au-delà des avant-gardes, hein, pour aller vraiment dans le cinéma de fiction. D'abord, on voit apparaître et on entend surtout des notes et des volutes de thérémine dans certains films, comme Le jour où la Terre s'arrêta au début des années 1950, dans les partitions de Bernard Herrmann par exemple. Des sonorités de cet instrument qui lui date des années de la fin des années 10 de 1920 à peu près, cet instrument électronique qui délivre des volutes un peu éthérées et fantomatiques et qui traduisent à l'époque ce monde de l'inconnu que représentent les extraterrestres, le cosmos, ou les ambiances de la fameuse planète interdite en 1958, où l'ensemble des sonorités du film ont été générées à l'aide de circuits électroniques par Louis et Bibi Baron.
Donc, c'est le premier film, ça, entièrement synthétique.
C'est le premier film dont l'entièreté de la bande-son est confiée non pas à des instruments, mais plutôt à des sortes de dispositifs électroniques qui vont générer des fréquences diverses et variées.
C'est comme si nous étions met. Wilson.
Aye, aye, sir.
Hold the tractor.
Aye, aye, sir.
What a vehicle, huh? The driver must be a madman.
What driver?
Welcome to Altair 4, gentlemen. I am to transport you to the residence. If you do not speak English, I am at your disposal with 187 other languages along with their various dialects and sub-tongues.
Colloquial English will do fine, thank you. This is no offense, but...
You are a robot, aren't you?
That is correct, sir. For your convenience, I am monitored to respond to the name Robbie.
Et dans ce film, ce très beau film toujours, les sons électroniques font à la fois office de musique de fausse, comme on dit, de musique qui accompagne l'ensemble du film, mais ça fait office aussi de sound design, d'ambiance musicale de la planète, de cette planète interdite, et puis aussi de bruitage, puisqu'on parle d'une ancienne civilisation. Et voilà, donc ces circuits électroniques délivrent des sons qui ont plusieurs fonctions dans ce film de 58.
Thierry, toi, dans ton livre Bandes originales, tu fais débuter ce langage particulier plutôt dans les années 70-80.
Oui, mais alors, paradoxalement, j'allais revenir même un tout petit peu encore avant la période dont parlait Jean-Yves, parce qu'il se trouve que, par hasard, la semaine dernière, j'écoutais une archive de Miklos Rocha, donc grand compositeur hollywoodien, qui est un des plus grands compositeurs de la période 40-50, même il a continué jusqu'au début des années 80. Et ce Miklos Rocha, qui avait en fait vécu à Paris à un moment donné dans les années 30, il était hongrois d'origine, racontait dans cet archive de 1976 qu'il avait connu les ondes Martenot, donc qui est l'équivalent français du Térémine, on va dire, dans les années 30, qu'il avait rencontré Maurice Martenot, et que au moment où il fait la musique d'un film d'Hitchcock qui s'appelle donc La Maison du Docteur Edwards, Spellbound en anglais, il se met à utiliser le Térémine. Donc c'est une des premières utilisations, je ne sais pas si c'est la première, mais alors évidemment dans un... Et là, ce n'est pas pour évoquer la question d'une autre planète ou d'un... C'est pour en fait travailler l'inconscient, en fait, puisque le film a à voir avec la psychanalyse.
Il n'y a pas de côté science-fiction là, du tout.
Non, mais en revanche, il y a le côté mystère de l'inconscient.
Patients invariably regard me as a wretched nuisance during our first talks.
I see. It's my subconscious putting up a fight. It doesn't want me cured.
Exactly. It wants to continue enjoying your disease. Our job is to make you understand why. When you know why you're doing something that's bad for you and when you first started doing it, well, then you can begin curing yourself.
You mean I've been telling you lies?
The usual proportion.
You're right. Been lying like mad. I hate men. I loathe them. When one of them so much as touches me, I want to sink my teeth into his hand and bite it off. In fact, I did that once. Do you care to hear about it?
Tell me anything you remember.
Something.
He kept asking me to marry him. And he liked her. I suddenly pretended I was going to kiss him. Sank my teeth into his mustache. Bit it clear off.
D'une certaine manière, peut-être la première acception de cette utilisation, qui est encore modeste, hein, du Térémine donc comme premier instrument électronique, c'est du côté de l'inconscient que ça se situe. Après, oui, pour aller dans ce que tu disais, dans les années 70, évidemment, là, ça se développe considérablement, puisque là, on est dans un tout autre contexte. Déjà, le cinéma de science-fiction lui-même devient assez important. Cela dit, dans 2000 ans d'ici de l'espace, que j'ai revu très récemment,
open the pod bay doors,
Hal. Il n'y a pas de musique électronique, par exemple.
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
En revanche, dans Orange Mécanique, qui lui est un film qui n'a rien de son... Enfin, qui est un film d'anticipation à sa façon, là, en revanche, la bande-son est largement électronique.
Thank you.
la musique électronique a été très vite utilisée dans des contextes finalement assez variés. Bon, bien sûr, il y a l'utilisation du compositeur russe Artemiev dans Solaris, bon, ce genre de choses, ou Tangerine Dream ensuite, ou des choses comme ça. Mais finalement, il y a déjà, voilà, l'utilisation de Kubrick dans Orange Mécanique, c'est complètement différent. Alors là, c'est pour effectivement réinterpréter des morceaux classiques par l'intermédiaire de Wendy ou Walter Carlos, mais c'est déjà assez varié finalement.
Mais de manière générale, dans l'histoire, dans l'apparition de ces sons électroniques, effectivement, ils traduisent le mystère de l'inconscient, ou les mystères du cosmos, l'étrange, l'inconnu, l'inouï, au sens de jamais entendu, l'étrange. En tout cas, les premières apparitions de ces sons électroniques traduisent toujours, en tout cas, une sorte d'étrangeté ou de complexité d'un monde relativement inaccessible.
Christ indeed. It was Ludwig van. Ninth Symphony, fourth movement.
Alors, je rappelle aux chers auditeurs, auditrices, que vous pouvez retrouver la tracklist détaillée de l'émission sur le site de Jet FM et la page de Sample et Moi. Les passerelles et hommages entre les époques et les styles sont tout aussi visibles concernant les BO dites électroniques. Alors, comme tout genre, celui qui nous intéresse aujourd'hui est lié à beaucoup de compositeurs, pas assez de compositrices, on pourrait y revenir, qui souvent, pour les plus renommés, n'ont pas des CV, je dirais, classiques. Qu'est-ce qui, à votre avis, peut amener des groupes ou artistes à ce genre, à ce style de musique? Est-ce qu'on peut trouver des trajectoires?
La musique électronique, c'est une musique assez instrumentale, parfois développée sur des durées assez, assez longues, notamment dans les années 70, avec toute cette musique dite cosmique ou planante. Et c'est une musique qui souvent possède un aspect cinématographique et qui a séduit tout simplement les cinéastes. Et ce sont d'abord les cinéastes qui ont été chercher ces musiciens, ces compositeurs ou ces compositrices, de Wendy Carlos à Artemiev, en passant par Tangerine Dream. Donc c'est d'abord l'oreille des cinéastes qui se sont dit, tiens, là il y a quelque chose qui se passe, et qui ont amené ces artistes vers le 7e art.
Pour aller dans le sens de ce que disait Jean-Yves, je pensais à ce que racontait William Friedkin, justement, qui a demandé à Tangerine Dream de faire la musique de Sorcerer, hein, qui je crois est leur première musique de film, ou peut-être je me trompe, mais en tout cas c'est l'une des toutes premières. Ils avaient peut-être fait un ou deux films allemands avant, et qui raconte qu'il était en promotion de l'Exorciste en Allemagne. Il s'est retrouvé en pleine nuit, à minuit, aller voir un concert dans la forêt noire. Enfin, il raconte ça avec beaucoup plus de. Avec sa faconde, la faconde qu'il avait, et qu'il a été complètement hypnotisé par ce concert, cette performance de Tangerine Dream. Et que donc ensuite, et tout de suite, il leur a dit voilà, j'aimerais bien que vous fassiez la musique de mon prochain film. Je ne suis même pas sûr qu'il savait exactement quel allait être son prochain film, mais il avait déjà cette idée en tête que de toute façon, ces sons pouvaient être importants pour lui dans la suite de sa carrière de cinéaste. Et finalement, il a procédé avec eux, d'ailleurs, comme il a procédé avec d'autres musiciens ensuite, c'est-à-dire qu'il leur a demandé d'envoyer le maximum de choses, de pistes, voilà, beaucoup de matière dont qui s'est approprié lui et qu'il a utilisé à sa façon. Mais comme disait Jean-Yves, c'est vraiment le désir des cinéastes qui a fait que Tangerine Dream est passé vraiment à la musique de film. Peut-être que sans ça, ils auraient peut-être sans doute fait quand même de la musique de film, mais pas de façon aussi soutenue et aussi développée que ça a été le cas.
Jet FM fréquence.2.
Artemiev, le compositeur russe, raconte toujours aussi que c'est Tarkovski qui est venu le chercher dans un studio où il avait à la fois une formation classique et puis il avait accès à ses instruments électroniques dans des studios soviétiques. Et voilà, Tarkovski lui l'a fait venir et puis lui-même presque commandé une musique qui viendrait se confondre avec les ambiances sonores du film. Tarkovski avait déjà une vision très claire, assez précise, avait une ambition déjà musicale dans son esprit qu'il a commandé ou commandité à Artemiev et qui l'avoue très modestement, très humblement, qu'il a suivi un petit peu les ordres et les désirs du maître cinéaste.
Puisqu'il est aussi, né et comme cinéaste et comme musicien dans les années 70, qui lui a fait de la musique électronique par économie, parce qu'il n'avait pas les moyens de demander à un compositeur. Il admirait, lui, son idéal, c'était Bernard Herrmann. Hein. D'ailleurs, il s'en est plus ou moins servi maintenant sur certains motifs. Il admirait, lui, son idéal, c'était Bernard Herrmann. Hein. D'ailleurs, il s'en est plus ou moins servi maintenant sur certains motifs. Mais finalement, il a bricolé sa propre musique des Dark Stars, son premier long métrage, parce qu'il n'avait pas les moyens de faire autrement. Donc finalement, c'est par l'effet d'une économie qu'il s'est retrouvé à devenir un des papes de la musique électronique, finalement.
Lieutenant Doolittle, it just exploded. The planet just exploded, sir. Lieutenant?
Attention. ship's computer to all personnel. The hyperdrive sequence is now terminated. The target planet has been destroyed.
Samplez-moi tous les samedis 18h et les mercredis 20h.
Alors sur les différents types de musique électronique entendue au cinéma, tous sont représentés, on peut dire. D'un côté, la musique diégétique, comme dans des scènes de club, par exemple, mais on y reviendra peut-être. Et là, on touche plus à sa fonction. Alors sur les styles, on a d'une part la techno, la trance, la musique expérimentale. Jean-Yves, peux-tu dire que le genre ambiante, comme tu as sorti un livre sur le sujet, prend le pas de plus en plus sur les autres courants, peut-être dans le cinéma, une musique qui peut tout aussi bien nous intéresser qu'être totalement ignorée, une citation de Brian Eno, c'est ça ?
Oui, chez Brian Eno, il désignait une écoute, disons, domestique et solitaire. Et c'est sûr que la musique ambiante a trouvé au cinéma une application, de nombreuses applications depuis assez longtemps, mais surtout depuis, on va dire, une quinzaine d'années où elle s'est infiltrée un petit peu partout dans le cinéma et dans les séries. Ça vient vraiment de discussions que j'avais eues avec Thierry à ce sujet-là. Hein. D'ailleurs, on était deux amateurs des films de Lynch, par exemple, qui a une approche, on pourrait dire, assez ambiante de la bande-son et de la musique, même si son compositeur, Angelo Badalamenti, n'est pas un compositeur ambiante, ni un compositeur purement électronique. Il touche un petit peu à tous les instruments, mais on était assez intéressés par cet aspect-là. Et puis, force est de constater qu'au fur et à mesure, même si c'était d'abord des cinéastes un peu visionnaires comme justement Lynch ou Tarkovsky, ou même certaines sections de Carpenter étaient proches de la musique ambiante, ces 15 dernières années, dans les films, dans les séries, elle fonctionne assez bien. Bon, Michael Mann aussi a été un réalisateur qui a parfois fait appel à ce type de composition, souvent des musiques préexistantes de Michael Brook ou de Brian Eno, et puis aussi David Fincher avec les bandes originales composées par
Reznor et Atticus Ross.
Voilà, c'est ça. J'ai toujours un problème avec parfois les noms propres, jusqu'au tout récent The Killer qui vient de sortir sur Netflix, où cette musique est assez présente. Elle a plein de fonctions et puis elle se mélange très très bien en fait au bruit, aux ambiances, au sound design. Et elle correspond comme ça à une sorte de couleur ou de norme de l'époque qui fait que les cinéastes, dans pas mal de genres différents, thriller, science-fiction, drame psychologique et policier, fantastique et horreur, ont recours à la musique électronique et à l'ambiance.
Samplez-moi.
Ça tombe bien parce que je suis en train de travailler en ce moment sur un peu sur les musiques de Fincher, enfin et notamment celle d'Atticus Ross et Trent Reznor, et j'ai vu hier soir The Killer, donc je suis un peu dans le sujet. Et de fait, en réécoutant, en voyant The Killer, mais aussi en réécoutant des musiques, notamment celle de Gone Girl, mais même de Millennium, c'est très fréquemment de l'ambiance, hein, ce que font Ross et Reznor, ce qui est assez finalement surprenant parce que Reznor il vient pas de là, il vient de la musique industrielle. Nine Inch Nails, c'est pas exactement de l'ambiance, ou alors c'est de l'ambiance hardcore, c'est un peu l'opposé presque, on pourrait dire. Mais je crois que la musique électronique, enfin que la musique ambiante, elle a l'avantage pour les cinéastes, ou en tout cas pour ceux qui ont envie de l'utiliser, de proposer une écoute flottante, et que cette écoute flottante fait que tu peux l'écouter à plusieurs niveaux, c'est-à-dire que ça dépend aussi comment tu la mixes. Mais souvent, je remarque qu'elle est mixée, pas systématiquement, mais comme un peu en sous-régime, c'est-à-dire comme ce qu'on appelle de l'underscore, c'est-à-dire des nappes qui viennent un peu, on va dire, informer le spectateur sans qu'il s'en aperçoive vraiment, qui le mettent en condition et qui effectivement se mélangent avec une bande-son plus globale où les sons... C'est assez frappant d'ailleurs, là, par exemple, dans The Killer, où le son est extrêmement travaillé et où effectivement cette musique est là, pas tout le temps, parce qu'il y a aussi les chansons des Smiths, mais quand même, elle acclimate le spectateur à quelque chose, à une ambiance justement, à une forme, et maintenant finalement c'est presque la norme de la musique de film aujourd'hui, hein. C'est-à-dire qu'il y a c'est plutôt l'inverse, il y a peu de films maintenant où il n'y a pas au minimum pas la totalité, mais en tout cas au moins une partie de musique électronique, c'est vraiment dominant, quoi.
Auparavant, elle était souvent associée un peu à une part un peu mystérieuse, à la tension, à un certain suspense, ou alors à des films plus avant-gardistes, peut-être, un peu lynchien, mais aujourd'hui, elle est vraiment présente dans des films de genre, des drames psychologiques plus classiques. Et je crois que la raison de son succès aussi, c'est que c'est une musique qui s'adresse aussi au spectateur, et qui le met dans un état de réception particulier. C'est souvent l'une des fonctions de la musique de film, c'est certes d'accompagner les personnages, l'action, d'ancrer l'action dans un lieu, dans une époque, dans une...
Bah, je crois que vous n'êtes pas encore prêt pour ce genre de choses.
Une narration spécifique, mais au fond, la musique au cinéma...
Par contre, vos gosses vont adorer ça.
Elle s'adresse aussi à ceux qui regardent le film, et la musique ambiante les met dans un état d'écoute, d'abandon, d'hypnose et d'attention aussi, peut-être plus encore que d'autres musiques de films. Enfin, c'est l'impression que j'ai. Elle nous met dans un, elle nous conforte dans notre état de spectateur rêveur.
L'amplification de l'utilisation de la musique électronique, elle tient aussi à quelque chose dont on a déjà parlé avec Jean-Yves d'ailleurs, en dehors de ce micro, c'est le design sonore, enfin le triomphe du design sonore, c'est-à-dire une mise en scène du son où se mélange musique et bruit, et où on ne sait plus très bien d'ailleurs faire la différence parfois entre les deux, et c'est comme un truc, l'ambiance a quelque chose d'enveloppant, ça permet d'emballer le tout, si je puis dire, et ça c'est un outil au fond aussi, presque de montage son maintenant autant que de musique au sens traditionnel du terme.
Oui, la musique de Reznor et Atticus Ross, elle a parfois un statut de pure ambiance, de pure sound design. The Killer, c'est plein de vrombissements, de fréquences très lointaines qui n'ont plus grand chose à voir avec, on va dire, une musique orchestrée et composée. Et puis à un moment ou un autre, ces fréquences, elles s'allient, elles, justement, elles s'assemblent, elles s'orchestrent, et tout d'un coup, vous avez une sorte de thème musical un peu lointain, bien sûr très flottant, qui se met en marche. Donc cette musique est sans cesse mutante. Et sinon, pour revenir à Carpenter, c'est que aussi la prééminence de la musique électronique, par exemple, enfin, ou en tout cas, la présence croissante de musique électronique dans le cinéma français, c'est aussi pour des raisons économiques. Aujourd'hui, on confie à un seul compositeur ou compositrice la musique d'un film. Et aujourd'hui, les budgets ont baissé. Et cette personne, cet artiste, doit tout composer, tout produire avec un budget forfaitaire. Cet aspect financier est toujours présent aujourd'hui.
Fin du premier épisode dédié aux musiques électroniques au cinéma. Un passionnant entretien croisé entre Thierry Jousse et Jean-Yves Leloup, passionné et passionnant connaisseur. Et c'est peu de le dire. Il fallait bien 3 épisodes pour fêter un 100e épisode en grande pompe. Retrouvez donc la semaine prochaine, même heure, la suite de cette discussion où il sera question, entre autres choses, de scènes emblématiques ayant une bande-son électronique, quelques partitions cultes du genre et d'un Solaris en deux façons, deux époques. Retrouvez la tracklist de l'épisode sur le site de Jet FM et la page de l'émission. 100e, d'accord ? Ça ne m'a pas empêché de glisser quelques extraits ça et là. À vous de les retrouver, vous connaissez le principe. Merci à Jean-Yves et Thierry, et à bientôt dans Samplez-moi.
Samplez-moi.